Bienvenue dans l'émission Route 66, l'émission du blues et des musiques roots américaines sur Radio RDL 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Et oui, salut à tous, avec une émission qui aujourd'hui reprend tranquillement son rythme de croisière après avoir reçu de nombreux invités, hein, et notamment la semaine dernière, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous en souvenez sans doute, de la venue exceptionnelle de Neil Black et Fred Chapelier qui nous avaient vraiment offert une émission absolument délirante. Alors aujourd'hui, le sujet restera ancré dans le blues français avec la diffusion d'une partie de l'interview que monsieur Bilderem m'avait accordé au mois de février dernier. Alors cette interview fera l'objet de deux émissions spéciales et encore malheureusement je n'aurai pas le temps de tout caser hein, tant celle-ci était dense, mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà la retrouver sur notre site internet sur laroute66.free.fr où elle est retranscrite en intégralité. Alors monsieur Bilderem, on le retrouve dans quelques minutes, mais on va commencer comme il se doit avec une nouveauté, à savoir un jeune groupe qui pratique le blues du Mississippi comme on le fait aujourd'hui, à l'instar des artistes tels que Richard Johnston ou encore les North Mississippi All-Stars, dont certains membres viennent justement prêter main forte à ce duo qui s'appelle Moreland and Arbuckle. L'album s'appelle 1861 en français, il paraît sur le label Northern Blues Records, distribué en Europe par Soka Disc, et le titre que je vous propose d'écouter tout de suite en introduction à cette émission s'appelle Gonna Send Ya Back to Georgia. C'est parti.
We'll be right back. This is Puta Fe, and you're listening to Route 66 Radio RDL 103.5 FM.
Porte haut les couleurs de la communauté amérindienne à travers le monde. C'est une femme absolument passionnante. Elle s'appelle Pura Fe et c'est un morceau extrait de son album All the Rain, son dernier album en date paru sur le label Dixie Frog. Le titre était Little Girl Dreaming. Pura Fe, j'ai eu la chance de l'interviewer il y a de cela quelques jours lors de l'un de ses concerts, juste avant d'ailleurs. Vous aurez l'occasion de découvrir cette interview sur notre site internet d'ici quelques temps. Et puis bien sûr, avant l'été, nous lui consacrerons une émission spéciale durant laquelle on diffusera toute l'interview. Maintenant, le moment est venu de passer au sujet principal de l'émission. Je vous propose une bonne quarantaine de minutes en compagnie de Monsieur Bill de Rheim, l'un des pionniers du blues en France, l'un des plus grands bluesmen français actuels, un type absolument charmant. Il m'avait reçu chez lui au mois de février dernier dans son domicile parisien. Un accueil extrêmement chaleureux à l'image du bonhomme, qui est également très intéressant, hein, puisque outre la musique, il s'investit dans de nombreuses associations, il vient en aide aux plus malheureux d'entre nous, c'est vraiment un homme au grand cœur. Il revient enfin à travers un nouvel album qui paraîtra dans quelques jours. L'album s'appelle très justement Bouge Encore, avec une superbe pochette signée par le dessinateur Zep. Pour les amateurs de bande dessinée, ça fait un double investissement pour le prix d'un. L'album est vraiment très très bon, et malheureusement, comme je vous le disais avant, l'interview qu'on va vous passer aujourd'hui sera malheureusement constituée que d'extraits, hein, de l'entretien que j'ai eu la chance de réaliser avec Bill. On vous passera d'autres extraits la semaine prochaine, mais l'intégralité ne pourra malheureusement pas être diffusée dans l'émission. Sans ça, il faudrait vraiment qu'on y consacre 5 shows exceptionnels. Ceci dit, Bill de Rheim, on va le retrouver tout de suite à travers ces extraits de l'interview, mais auparavant, on va justement se passer un morceau issu de son prochain album. Je le répète, l'album s'appellera Bouge Encore et paraîtra sur le label Mosaïque. Et le titre que je vous propose d'écouter en guise d'introduction à cette séquence qui lui est consacrée s'appelle Les Rames de l'âme. Un Bill de Rheim en pleine forme, et ça nous fait bien plaisir.
J'ai si souvent pensé que j'étais au-delà de mes peines, après l'avoir coulé dans le ventre d'une baleine. J'ai toujours trouvé quelque part l'oxygène pour m'enfoncer plus loin au cœur de la zone urbaine. Le drame de l'âme, c'est qu'il faut bien mourir un jour. Alors la mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. Mais que de rame, c'est lourd. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. En bruit d'amour. L'amour sans l'âme, peu de monde le sait, c'est la morsure de l'amour. Un feu sans flamme qui fait semblant brûler toujours. L'âme sans l'amour ne peut que mourir à petit feu. Le feu s'éteint quand l'âme qui jarre ne peut plus faire pas de. Frappe l'âme, c'est qu'il faut bien mourir un jour. Alors, la mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. Mais que de rame, c'est lourd. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. En bruit d'amour. La vie de l'âme, je le proclame, n'est que la vie de l'amour. L'amour dans l'âme, je rame, je vole, je marche, je cours. Et quand je rame, j'ai mal, mais je sais bien qu'au fond, bientôt les rames emporteront mon âme au-delà de l'horizon. Le drame de l'âme, c'est qu'il faut bien mourir un jour. Alors la mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. Mais que de rame, c'est lourd. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. En mourir d'amour. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. En mourir d'amour.
Alors Bill, pour commencer, est-ce que tu pourrais simplement revenir sur la façon dont tu as découvert le blues?
La façon dont j'ai... Ben, Le premier choc, si tu veux, ça a été d'entendre Ray Charles, quoi. Tu vois, la première chose que j'ai entendue de la musique noire, c'est What I Say, tu vois. J'ai commencé à jouer de la guitare avec ça et j'ai beaucoup écouté. J'avais tous les albums de Ray Charles et tout ça. Et c'est la première fois que j'entendais un noir crier comme ça, quoi. Enfin, un chanteur d'ailleurs, quel qu'il soit, il y avait un cri, il y avait quelque chose de très fort d'intérieur, quoi. Et peut-être à l'époque, si tu veux, c'était quand même la guitare commençait à être très en vogue, si tu veux. Alors j'ai adapté et j'ai recherché peut-être autre chose et j'ai écouté Bibi Bronzi, par exemple. C'était le premier guitariste chanteur que j'ai vu, bluesman, quoi, que j'ai entendu, enfin, parce que je l'ai vu plus tard en vidéo, mais j'ai jamais. Mais voilà. Après, bon, il y a eu des gens comme Led Belly, un bluesman qui Big Big Bronzi et Led Belly, par exemple, c'était des bluesmen, mais on les appelait minstrels, c'est-à-dire des ménestrels, quoi, hein, parce qu'ils chantaient du blues, mais ils chantaient aussi du gospel, ils chantaient des vieilles ballades américaines, tu vois, des work songs, des choses comme ça. Led Belly, c'était un spécialiste des work songs avec sa 12 cordes, tu vois. Et bon, c'est les premiers gens que j'ai entendus qui m'ont... Ronnie Maggie et Sonny Terry aussi. Mais c'est surtout Bill Big, quoi, qui m'a fait vibrer, avec notamment un blues qui s'appelle Louise, qui était vachement... qui est super.
Et justement, au-delà de la musique, est-ce que tu étais déjà à ce moment-là attiré par les thèmes que ces gens-là pouvaient aborder? Puisque, pour prendre l'exemple de Led Belly, c'est quelqu'un qui a fait de la prison, qui s'en est inspiré après dans ses chansons. Donc ça, c'était déjà une recherche que tu faisais également de ton côté?
Non, c'était inconscient, ça. Si tu veux, j'avais 15-16 ans, quoi, tu vois, et si tu veux, c'était la musique, c'était quelque chose dans cette musique-là qui m'attirait, mais savoir quoi, je savais pas très bien, quoi, tu vois, c'était un flash, un plaisir, un bonheur de rentrer là-dedans, et donc ça m'a donné envie de chanter, de jouer de la guitare, etc. Mais c'était, il n'y avait pas cette recherche, comment je te dirais, philosophique ou mystique qu'il y a dans le blues, quoi, tu vois. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, tu vois. J'ai d'abord commencé par l'imitation, si tu veux, comme on imite un maître. J'ai cherché des positions de guitare, j'ai essayé de chanter un peu comme eux, etc., etc. Et petit à petit, bon, ça s'est affiné, c'est mon école, quoi, si tu veux. Lou, c'est une école, quoi, tu vois, pour moi.
Alors, j'ai lu dans ta biographie que tu as fait des études de médecine. Est-ce que c'était quelque chose de compatible avec ta passion de la musique, ou alors est-ce qu'à un moment, voire assez rapidement, tu as dû faire un choix entre les deux?
C'est-à-dire, j'ai fait des études de médecine à Amiens, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. J'ai fait 6 mois, j'ai passé une année à Amiens à faire de la musique avec des gens, etc., plus que de la médecine, puis des conneries aussi, hein. Bon, mais après j'ai fait kinésie pendant 2 ans. Là aussi, j'habitais à Montmartre, si tu veux. Toute l'époque de mai 68, on a passé ça sur les marches du Sacré-Cœur, à chanter, à jouer sur à faire la manche sur la place du Tertre, ou sur les marches du Sacré-Cœur, tu vois. Là, par contre, il y avait déjà quand même une autre dimension. Il y avait la dimension beatnik, hippie, communauté, tout ça. Je vivais dans un appartement communautaire, tu vois, tout ça, où on avait... où on avait un petit groupe qui s'appelait Wandering, quoi. Ouais.
Alors justement, juste après 68, tu as fondé le TMS Folk Center. Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir et me présenter ce concept?
Le TMS, c'était un... Si tu veux, c'était la suite d'une expérience de drogue, parce que sur la butte Montmartre, évidemment, à l'époque, en 68-69, c'était vraiment un petit marché pour la dope. Et si tu veux, l'appartement dans lequel j'étais était très actif là-dedans. Si tu veux, quand tu rentrais dans l'appartement, à droite, il y avait une cuisine, Et dans cette cuisine, il y avait une balance pour le shit et tout ça, quoi. Et bon, il y avait beaucoup de passages dans l'appartement. Excuse-moi, j'ai la gorge malade. Et donc, là, je sais plus la question.
Donc, on parlait du TMS.
Ah oui. Et si tu veux, j'ai eu un moment de prise de conscience où, si tu veux, j'ai rejeté la drogue et tout ça, quoi. J'ai flippé, comme on dit, quoi. Pendant plusieurs jours, je suis pas sorti, tout ça. J'ai commencé à me dire qu'il fallait arrêter, quoi. Et puis, j'ai rejoint des personnes qui étaient sur la butte aussi, qui avaient l'idée de faire quelque chose, de monter une association pour aider les drogués, quoi, les toxicos. Et c'est comme ça qu'on a rencontré un médecin avec lequel on a fondé un club de musique. Si tu veux, l'idée c'était de faire un club de prévention. C'était sous la tutelle de Sainte-Anne et de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. On a monté un club, quoi. Mais là, ils nous laissaient, on était une quinzaine de musiciens, ils nous laissaient les salles pour faire, si tu veux, des concerts, des animations, enfin, du style des cours de guitare. Il y avait une salle, de permanence qui était ouvert tous les après-midi, où tous les routards passaient, où on pouvait trouver des restos pas chers, on indiquait les restos pas chers, les petits hôtels pas chers, tu vois, il y avait des disques de folk, de blues, et une fois par semaine, il y avait un concert qui dépendait assez étroitement de d'autres lieux comme le centre américain, du boulevard Raspail et du Dragon, et puis aussi de l'église américaine, la rue du Dragon et l'église américaine. C'était des endroits où il y avait des Houdnani, où les gens qui jouaient venaient s'exprimer, chantaient du folk, et surtout du folk, quoi. Et là, nous, on faisait un programme toutes les semaines. Et en dehors de ça, si tu veux, il y avait des soins à côté, si tu veux, pour les routards ou les gens qui étaient dans la rue, ou les gens qui avaient des problèmes de drogue et tout ça, quoi. Et voilà, le TMS, c'était ce lieu convivial de rencontre, si tu veux, où en même temps, il y avait une free clinique, c'est-à-dire un lieu où on pouvait s'adresser à quelqu'un pour aller passer un passage, pour aller passer quelque temps dans un hôpital, ou simplement demander comment faire pour arrêter, trouver de l'aide, etc. Ou même tout simplement se faire soigner d'un furoncle, hein, c'est pas. Mais bon, c'était l'ambiance Alice's Restaurant, quoi, si tu veux. C'était les années 70, quoi, et c'était un peu une des premières expériences de free clinic en France, quoi.
Je vais avoir comme une oie son jar qu'on engraisse. Je me suis fait avoir par le marché de l'art qui dégraisse. Je me suis fait avoir par la foule en fanfare qui se presse. Si je m'en suis sorti, c'est que j'ai quelques amis que j'intéresse. Ah, j'ai dû traverser la grande ville surpeuplée qui agresse. Le tunnel des vanités, le désert inhabité qui oppresse. J'ai même perdu pied dans la rivière argentée des richesses. Si je m'en suis sorti, c'est que j'ai quelques amis que j'intéresse. Mon ami pour toi, oh je veux encore. J'irai la voir, faire sonner les accords. Je chante encore. J'ai appris à payer pour la vraie liberté et son ivresse. J'ai encore souvent mal si le prix du mental en souplesse. Ah, je vis dans un pays où rien ne me fie la promesse. Si je m'en suis sorti, c'est que j'ai quelques amis que j'intéresse. Mon ami pour toi, oh, je veux encore déchirer la voix, faire sonner les accords. Je chante encore, oh, je hurle encore sur trois accords, je blues et encore. Ma plus belle histoire d'amour, c'est pas une bande de vautours qui régresse. C'est pas non plus un parterre, tous les bras bien en l'air, tous en laisse. C'est toi qui applaudis sur tous les jours, maudit ma faiblesse. Si je m'en suis sorti, c'est grâce à toi, mon ami, qui m'intéresse. Mon ami pour toi, oh, je veux encore te déchirer la voix, faire sonner les accords. Je chante encore.
Bluesman français que tu as côtoyé, et est-ce que là aussi vous formiez une communauté?
Le premier, c'est peut-être Patrick. Oui, Patrick Verbeek. Après Benoît, et puis Paul. Mais oui, au début il y avait un petit quelque chose. Ouais. Je me souviens qu'avec Patrick et Benoît, on avait fait des réunions avec des journalistes et tout ça. Oui, il y avait quelque chose, mais bon, c'est pas, si tu veux, ça n'a jamais été évident, quoi. Si tu veux, on est tellement dans un contexte musical, vicié, quoi, par le showbiz, et moi, peut-être plus que les autres, parce que ça a marché assez vite, quoi, ça a bien marché, même, trop, quoi, tu vois, même. Très vite, je me suis retrouvé dans une bulle, quoi, faut dire ce qu'il y a, et bon, j'ai pas tellement pensé au côté... justement, c'est tout le passage où, là, j'ai appris ce que c'était que la solitude, d'une certaine façon, et que j'avais pris une mauvaise direction. J'ai pris la direction que prend tout le monde. Quand on a du succès, nécessairement, on se regarde le nombril et on voit plus beaucoup de choses autour, quoi, tu vois. C'est pour ça que je crois pas tellement un truc humanitaire, quoi, tu vois, sur ce plan-là, quoi. Mais j'en suis vraiment revenu et ça m'a fait du bien de redescendre, quoi. Et que j'ai grimpé très vite et j'ai descendu, bon, peut-être un peu moins vite, mais je suis descendu assez vite aussi, quoi. Pour arriver à un point où, dans les années 87, quoi, j'ai vécu de la musique, j'ai survécu de la musique, quoi, tu vois. Ça a toujours été dans la lutte, quoi, depuis 87. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Entre deux eaux, bon, je remonte à la surface, je redescends, je remonte. Et c'est ma maladie aussi, je suis maniaco-dépressif, et j'ai vécu ça totalement dans la musique, quoi. Je faisais un album, hop, c'était super, etc., puis ça ne marchait pas, je retombais, enfin, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, si tu veux, ça serait pas mal, parce que j'ai vendu quand même dans une moyenne de 30-40 000 albums. Tu vois, au début, j'étais à 100 000 albums, après j'étais... si tu veux, à partir du moment où ça a été plus difficile, j'ai commencé à avancer moins solitaire, quoi, tu vois. Jusqu'à un point où vraiment, il y a un paroxysme, et là, je crois que c'est là où je deviens vraiment un chanteur, un artiste, un bluesman, si tu veux. C'est où je pense que je chante plus pour les autres que pour moi-même, si tu veux. Alors qu'avant, je chantais plus pour moi-même que pour les autres. Et qu'est-ce qu'un artiste sinon celui qui s'oublie, si tu veux, pour laisser passer un message ou une vibration ou la beauté, tout simplement, quoi. Tu vois, et à partir du moment où tu retiens les choses pour toi et tu en fais ta chose, bon, c'est plus de l'art, quoi. C'est du commerce, quoi. On en a des tas d'exemples aujourd'hui, quoi, avec des méthodes commerciales, notamment au niveau du blues dernièrement, quoi. C'est bon, quand on voit l'album promotionné monstrueusement de Johnny Hallyday, tu vois, et la façon dont ça a été lancé, etc., tu vois, là c'est de l'industrie, c'est plus de la musique, quoi. Quoique les gens qui jouent dedans jouent bien, quoi, c'est pas, je ne dis pas, mais si tu veux, l'objet en lui-même n'a pas de, enfin bon, moi j'aime bien Johnny, j'aime bien le personnage, je le connais bien, j'ai pas mal discuté avec lui et tout ça. Mais si tu veux, tu peux pas. Il est prisonnier d'un truc, quoi. Tu vois, c'est une machine, quoi. Une énorme machine. Bon, et il est encore quand même d'une certaine sincérité lui-même au milieu de tout ça. Mais il est pris dans un truc, quoi. Et ça n'a rien à voir avec le blues, pour moi, si tu veux. Le blues, c'est une musique artisanale, quoi. Tu vois, c'est une musique dans laquelle tu crées. Tu dis ou tu recrées, si tu veux. Il y a des tas de bluesmen qui ont chanté les chansons des autres, des blues des autres, mais à chaque fois ils y ajoutaient vraiment leurs pattes et leur façon de faire, si tu veux. Et bon, Johnny, c'est pas ce principe là quoi, tu vois, je veux dire, c'est une autre façon de faire. Ça vient par le haut, quoi, tu vois. C'est pas par le bas que ça passe, quoi.
Cacher le malaise, on a vraiment peu de choses, mais faut pas que ça nous pèse. À la fin du parcours, bien ou mal dans notre peau, avec ou sans amour, pour lâcher le morceau, plus besoin d'ailleurs. Plus besoin de s'accrocher, plus besoin d'être à l'heure, le temps n'est plus compté, juste besoin d'un passeport pour une vie nouvelle, où coule de tous les bords du bon lait et du miel. Oh, ne crois surtout pas. Ma chanson soit triste, s'il parle de l'au-delà, c'est à cause d'un artiste qui chanta dans les rues. I'll be alright someday, lui au moins je l'ai cru, juste parce qu'il y croyait. C'était ta vie à droite.